Si vous voulez, prenez votre Bible et regardez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 5. Je vais faire la lecture et puis nous allons voir la manière que le Seigneur nous dirige dans cette étude. Mais le sujet, c'est effectivement la prédication fidèle de la parole de Dieu. Alors, ici, dans 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1, Paul dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Alors prions le Seigneur avant de continuer. Seigneur, je te remercie pour ces moments que tu nous donnes de nous rassembler à travers le monde avec des frères en qui tu as mis un intérêt et aussi quelques sœurs qui suivent ces études. Et je te remercie, Seigneur, pour ta parole et je prie que ton esprit nous dirige toujours, nous éclaircit et nous donne la lumière nécessaire en Jésus-Christ de comprendre que tout ce que ta parole nous révèle, c'est au sujet de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et que c'est en lui que tu as mis toute ta gloire. Et en nous, en qui il est révélé aussi de le glorifier en toute instance. Alors, ma prière, c'est que tu diriges ce que j'ai à enseigner aujourd'hui à travers ta parole et que ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, soit glorifié dans nos cœurs. Et je te rends grâce dans le saint nom de Jésus-Christ, ton Fils éternel. Amen. Alors, quand il s'agit de la prédication, il y a beaucoup qui prêchent, mais la question est toujours qu'est-ce qu'ils prêchent? Il y a beaucoup d'écoles qui forment des prédicateurs, mais simplement avoir ce titre de prédicateur ne dit pas nécessairement que cela prêche la parole de Dieu. Ici, l'instruction donnée à Timothée par l'apôtre Paul dans le verset 2, c'est « prêche la parole ». Et je dois dire que cela même a une signification que beaucoup ignorent. Parce que ce n'est pas qu'est-ce que la parole, mais qui est la parole. Si nous comprenons ce que dit la Bible, nous savons que la parole de Dieu n'est pas autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, il y en a qui prêchent ce qu'ils croient être la parole simplement parce qu'ils ont une Bible. Ils ouvrent la Bible et ils entretiennent les gens dans différents sujets. Mais je suis persuadé que la Bible n'a qu'un seul sujet. Et il y en a qui me trouvent extrême pour cela. Ils disent, mais ça, c'est vraiment trop étroit de croire que tout ce qui est dans la Bible concerne le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres sujets. Mais si nous croyons ce que Dieu lui-même dit au sujet de sa parole, et je ne vois pas pourquoi nous allons croire autre personne que Dieu, c'est lui l'auteur. C'est son esprit qui a donné aux hommes cette parole. Et c'est la parole inspirée. Les hommes ne sont pas inspirés, c'est la parole inspirée. Cela veut dire que Dieu lui-même leur a donné cette parole et à travers cette parole, il n'a qu'un seul but, c'est de révéler le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean, dans son évangile, a écrit dans le chapitre 1 et le verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et puis, dans le verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, tout ce qu'il a écrit concerne Christ comme étant la parole éternelle de Dieu. Alors, quand nous lisons ici dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 2, prêche la parole, on peut dire prêche Christ. Et j'aime faire cela. Quand je trouve ce mot parole ou le mot vérité ou bien vie, qui est la vie? Qui est la vérité? Qui est la parole? Quelqu'un qui ne prêche pas Christ, le Seigneur Jésus-Christ, selon cette parole écrite, ne prêche pas la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi Paul, commençant ici, donne l'importance de la prédication fidèle de Christ lui-même. Il a dit ça aux Corinthiens. Ce n'est pas que Paul n'était pas formé dans la philosophie, la théologie. Il faut dire qu'il a appris au pied de Gamaliel, qui était un des plus grands religieux du jour. Et l'apôtre Paul connaissait beaucoup de choses. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 2 et à partir du verset 1, lui-même il a dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » On peut s'arrêter là un moment pour se demander, qu'est-ce que le témoignage de Dieu? Et encore, je préfère poser la question, qui est le témoignage de Dieu? C'est Christ. Alors, je suis allé vous annoncer Christ, on peut dire cela. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, quel que soit le passage, quel que soit le texte, ce n'est pas à nous de nous lever et puis commencer à parler de l'histoire d'Israël ou bien donner des cultures. Tout ça, c'est peut-être important pour mieux comprendre un contexte. Mais on ne doit pas passer le temps dessus et laisser de côté la prédication de la parole qui est Christ. Ou laisser de côté le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu lui-même rend de son Fils. Alors, toute la somme de la prédication de la parole de Dieu consiste en ces deux choses, à connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, la personne de Christ et puis son œuvre. Alors il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, on reconnaît que nous sommes faibles en ce qui concerne la prédication. Nous prenons des choses qui concernent un Dieu éternel, un Dieu infini. Et on parle d'un salut qui vient de Dieu. Alors tout cela dépasse notre intelligence naturelle. Alors c'est dans la faiblesse, Paul dit, que je viens vous parler, vous prêcher, de crainte et de grand tremblement. Il ne dit pas cela parce qu'il a crainte des hommes, mais la crainte, c'est la crainte de Dieu. Le grand tremblement s'agit du poids. Chaque fois que nous nous levons, ce n'est pas une chose légère de prendre ce qui concerne la gloire de Dieu et de son Fils Jésus-Christ et l'annoncer à d'autres. Il s'agit des âmes, des hommes perdus et des femmes perdues, des enfants perdus. Et si Dieu lui-même ne daigne pas révéler Christ en eux à travers cette parole prêchée, alors ils seront perdus pour l'éternité. Alors c'est pourquoi Paul dit dans le verset 4 d'1 Corinthiens 2, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. » Je dois dire, à travers les années que j'ai suivi ma formation jusqu'à avoir une maîtrise dans la théologie, je dois dire que la formation était de me former à être beaucoup plus persuasif et avoir cette aptitude de pouvoir enseigner la parole et même utilisant le grec ou bien l'hébreu dans l'original. Mais en regardant tout cela, je vois que ce n'est que de la boue, parce que c'était de me former dans des discours persuasifs de la sagesse de l'homme. Ce n'est pas sur ces choses que nous devons nous baser. Mais il dit, sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, une démonstration d'esprit veut dire que c'est la révélation de Christ à travers l'Esprit de Dieu. Et la puissance, c'est la puissance de Dieu en convertissant les cœurs de ceux qu'il a donnés à son Fils depuis l'éternité et pour qui Christ est venu mourir dans ce monde. Et le verset 5 nous donne encore la raison, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Qui est la puissance de Dieu? Voilà encore, vous pouvez mettre à côté Christ et la puissance de Dieu. Le salut est de Dieu à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, ici, en revenant dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 1, nous voyons, même à travers les mots que l'apôtre Paul utilise en écrivant à Timothée, il dit « je t'en conjure ». Ça, c'est un terme qui est vraiment fort. Cette adjuration nous montre combien ce sujet est nécessaire, non seulement pour Paul, mais Timothée. Je te conjure, notez bien, devant Dieu, et dans l'original, quand vous voyez le petit mot « et », c'est aussi « même », ça peut être traduit comme ça, « même devant Jésus-Christ », parce qu'il n'y a pas de différence entre Dieu et Jésus-Christ. Qui dit Dieu, dit Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, comme nous avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ici la partie culminante des exhortations adressées à Timothée que nous sommes en train d'étudier depuis un certain temps. Mais cette adjuration que Paul donne à Timothée est faite en présence de Dieu, même de Jésus-Christ, et ça contient cette pensée, parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans le verset 1, est présenté sous deux aspects que nous ne devons pas ignorer. Premièrement, comme juge, notez, qui doit juger les vivants et les morts. Les gens imaginent un Jésus, parce que c'est comme ça dans leur prédication, qui aime tous les hommes et qui ne peut faire aucun mal à qui que ce soit. Et donc, il faut essayer quand même de vivre d'une manière à lui plaire. Et si quelqu'un fait son mieux selon eux, alors ils seront acceptés. Parce que Dieu est amour, Jésus est amour. Voilà comment leur Jésus est représenté, mais pas le Jésus-Christ de la Bible. Il est le juge, le mot juger, qui doit juger, veut dire souverain. Et voilà comment nous savons qu'il est Dieu, parce que quand on dit Dieu, le mot Dieu signifie magistrat, suprême, chef. Alors, tout jugement, comme Christ a dit, le Père ne juge personne, mais il a rendu tout jugement à son Fils. Même Christ, dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, il remerciait le Seigneur dans Jean 17 et le verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir. De juger signifie non seulement l'autorité de juger, mais le pouvoir de juger. Et il dit, tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Alors quand Paul dit à Timothée qu'il le conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qu'il doit juger les vivants et les morts, cela veut dire qu'il est le juge sur toute créature. Personne n'échappe à sa souveraineté. Et la détermination sur le sort de quelqu'un, si celui-là ou celle-là serait sauvé ou condamné, dépend uniquement du juste juge, de Jésus-Christ. Alors voilà ce que beaucoup ignorent, parce que la manière que Jésus est prêché aujourd'hui, c'est une manière populaire, on l'entend partout, c'est que Jésus est entre les mains des hommes. Alors c'est à chacun de décider ce qu'il va faire de Jésus. Mais nous n'allons jamais, en lisant la Bible, voir une telle interprétation. C'est le contraire, c'est que ce Jésus, Christ de la Bible, a tout homme entre ses mains et c'est à lui d'exiger son droit de sauver ou de condamner comme il veut. Mais il ne le fait pas au hasard. La Bible nous donne clairement la manière que Dieu juge à travers son Fils les vivants et les morts. C'est à travers la personne de Christ. Soit tu es en Christ ou tu n'es pas en Christ depuis l'éternité. C'est Dieu qui fait son choix et il l'a fait depuis l'éternité. Mais même ceux qu'il a choisis pour le salut, ce n'est pas simplement d'ordonner qu'ils soient sauvés et puis c'est fini. Non, il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, venir dans ce monde afin de donner sa vie. Il a versé son sang parce que sa justice exigeait un juste jugement. Alors, ayant payé cette dette pour son peuple et maintenant ressuscité et ascendu au ciel, assis sur le trône. Il juge toute créature selon cette règle de sa mort qui a satisfait son Père. Alors, les gens n'aiment pas cela. Ils n'aiment pas que ça soit dépendant de la personne et de l'œuvre de Christ. Ils veulent que Dieu considère leurs œuvres aussi. Et voilà ce qui fait leur condamnation. C'est que Dieu ne considère pas les œuvres des hommes, mais il considère uniquement l'œuvre de Christ. Alors, l'importance de la prédication fidèle de la parole, c'est prêcher Christ, mais prêcher Christ comme étant le juge de ceux qui sont vivants ou des morts. Le fait qu'ils meurent ne veut pas dire alors qu'ils ne sont plus sous la condamnation. Au contraire, s'ils ne sont pas en Christ, donc ils seront jugés éternellement. Mais le deuxième aspect que nous voyons ici, c'est que, comme c'est écrit, au nom de son apparition et de son royaume. Non seulement il est juge, mais il règne et il revient. La Bible dit, et au nom de son apparition. Et là encore, il y a beaucoup d'interprétations de ce qui va se passer quand Christ revient. Il y en a qui enseignent un royaume terrestre qui va durer 1000 ans, et puis après, maintenant, vient l'éternité. Mais tout ce que je vois dans la Bible, c'est que au retour de Christ, la Bible dit qu'il y aura une seule résurrection, des justes et des injustes. Et ceux qui sont injustes sont ceux qui sont encore dans leur péché, pour qui Christ n'est pas mort, ils n'ont pas de rançon, et alors ils seront jugés étant des pécheurs condamnables, et Dieu serait juste tout en les condamnant. Point final. Mais on peut peut-être demander, mais qu'est-ce qui va se passer avec ceux pour qui Christ est mort? Il y en a encore beaucoup d'idées erronées. On parle des récompenses qui seront pour ceux qui ont bien vécu leur vie devant Dieu et pour Jésus-Christ. Alors, ils seront récompensés pour ces œuvres-là. Mais voilà d'où vient l'erreur, le levain qui entre et qui pervertit la parole de Dieu. Si, en ce qui concerne le royaume et le retour du Seigneur Jésus-Christ, je crois que le livre d'Apocalypse est assez clair. Et ici, dans Apocalypse, chapitre 20, nous lisons ici, dans le verset 4, c'est une révélation de Christ à travers Jean, lorsqu'il était en exil sur l'île de Patmos, et il souffrait pour le témoignage de Christ. Et nous voyons ici, dans Apocalypse 20, le verset 4, « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà d'où vient maintenant cet enseignement que, en parlant du royaume de Christ, ils imaginent que ça va être un royaume terrestre, parce que c'est écrit ici, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Deux choses à noter ici. Dans le contexte, la révélation ici, ce n'est pas sur la terre, mais c'est au ciel. Ça, c'est la première des choses. Il s'agit des hommes qui règnent maintenant avec Christ, qui ont été décapités, qui sont morts pour le témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Vous voyez ça encore? À cause de Christ. Donc, mettons ça ensemble avec ce que nous sommes en train de voir ici dans 2 Timothée 4, où il doit juger les vivants et les morts. On remarque ici que ceux-là qui sont représentés ici dans le verset 4 ont tous des trônes. Cela veut dire qu'ils règnent avec Christ à cause de l'œuvre de Christ à leur égard. Bien sûr, ils sont morts pour son témoignage, mais où sont-ils maintenant? Ils sont au ciel et ils règnent ici. Ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. On peut aussi interpréter ça pendant des milliers d'années. Il s'agit de l'état de ceux qui sont morts en Christ maintenant, avant son retour. Parce qu'on peut se poser la question, mais est-ce qu'ils sont encore en vie? Il s'agit de cela que lorsqu'ils sont morts, ils entrent directement dans la présence de Dieu. Et ils jouissent de cette présence de Jésus-Christ. Maintenant, pendant que nous sommes ici sur la terre, étant des sujets de son royaume, parce qu'il règne, donc son royaume est maintenant, et il avance son royaume chaque fois qu'il convertit un pécheur pour qui il est mort. Mais lorsque ceux qui sont en Christ meurent, la vie sur la terre pour les autres continue, mais ceux-là, leur âme ne meurt jamais. Ils continuent à régner avec Christ pendant des milliers d'années. Ce terme dans les Écritures, « mille », ça signifie un numéro infini. On dit souvent à nos enfants, « je t'ai dit 1000 fois ». Ne pas faire cela. Bon, qui compte? Ce n'est pas qu'on est en train de compter jusqu'à 1000 fois et puis dire, voilà, je t'ai dit 1000 fois. Mais le sens est que c'est un nombre infini. Et on ne sait pas le moment où Christ doit revenir. C'est pourquoi ce chiffre est utilisé ici. Ils régnèrent avec Christ pendant des milliers d'années. Et on sait déjà que c'est ça, parce que depuis la mort de Christ jusqu'à maintenant, des milliers d'années ont passé. On ne sait jamais. Personne ne sait le jour ou le temps où Christ doit revenir. Pourtant, si on doit demander, mais où sont ceux qui sont morts en Christ? Quel est leur état maintenant? Nous voyons à travers le livre d'Apocalypse, qui règne maintenant avec Christ. Et c'est écrit dans le verset 5, « Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » Cela veut dire, il n'y aura pas une résurrection des morts jusqu'à ce que ces milliers d'années, le temps pourvu par Dieu lui-même, sera maintenant accompli. Et c'est écrit, c'est la première résurrection. Quelle est la première résurrection? La première résurrection, c'est cette résurrection lorsque Christ est ressuscité des morts et ceux pour qui il est mort étaient ressuscités en lui. C'est ce qui garantit leur vie éternelle. C'est pourquoi Christ a dit que ceux qui sont en lui ne meurent jamais. Parce que peut-être, oui, ils vont endurer cette mort physique, mais l'âme continue à vivre auprès de lui pour l'éternité. Rien ne change. Et c'est pourquoi c'est écrit dans le verset 6, « Heureux et quoi? Saints, ceux qui ont part à la première résurrection. » Quelle première résurrection? La résurrection de Christ lorsqu'il est ressuscité des morts. Parce que notre vie dépend de sa vie. Et on sait, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, donc il n'y a pas d'espoir. Tout notre espoir pour l'éternité s'est basé sur cette première résurrection de Jésus-Christ et ce qu'il a en ressuscitant des morts et en allant au ciel auprès de son Père, tous ceux pour qui il est mort ont eu leur place auprès de lui. Et notez, heureux et saint, cela veut dire justifié par l'œuvre de Christ. Voilà la seule façon d'être considéré saint devant Dieu. Alors, heureux ceux-là qui ont part à cette résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu, même de Christ, et ils régneront avec lui. C'est écrit pendant 1000 ans, mais encore pendant des milliers d'années. Tout ce temps, dans l'intervalle entre la première résurrection de Christ, après sa mort, jusqu'à ce qu'ils seront ressuscités à la fin des temps. Des milliers d'années, où sont-ils maintenant? Ils règnent avec Christ et ils sont sacrificateurs de Dieu et de Christ. Cela veut dire qu'ils passent leur temps maintenant au ciel. Il y a une assemblée réunie au ciel qui, nuit et jour, selon le temps terrestre, mais on sait qu'au ciel, il n'y a pas de temps, mais il offre des sacrifices d'adoration à Dieu à travers Christ, disant, digne est l'agneau qui a été immolé. Alors, je crois que ça, c'est le sens ici dans 2 Timothée 4, que ce Christ est le juge des vivants et des morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Il reviendra un jour. C'est pourquoi la prédication de Christ est importante, parce qu'il s'agit d'un sauveur qui est Dieu dans la chair. Il est venu dans la chair et il accomplit le salut à l'égard de ceux pour qui il est venu mourir. Et ce salut est si certain pour chacun d'eux que lorsqu'il reviendra un jour, ça parle là de son apparition, ils continueront à régner avec lui pendant l'éternité. Alors, la prédication de la parole, son importance de prêcher Christ, ce n'est pas simplement d'essayer de prêcher d'une manière à ce que les gens se sentent un peu mieux concernant leur état sur la terre, ou bien ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas des histoires que nous racontons, mais nous prêchons Christ et Christ crucifié. Parce que tout le jugement de Dieu, tout ce qui concerne l'éternité, réside en lui, en celui-là. Alors c'est pourquoi il dit « prêche la parole ». Alors nous avons commencé aujourd'hui un peu en retard. J'ai encore d'autres points à souligner là-dessus. Mais puisque le temps est passé, je dois revenir sur ça la semaine prochaine. Mais nous allons voir à travers ces versets la manière de prêcher fidèlement la parole. Cela est décrit dans le verset 4. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant des autres. Comme on voit ici, instruisant. Alors, nous voyons aussi l'opposition de la prédication fidèle à la parole. Et on doit s'attendre à cela. C'est tout ce que nous avons vu à travers ces deux épîtres, que celui qui veut vivre pieusement. Cela veut dire vivre selon cette instruction donnée en Jésus-Christ. Vivre selon qui il est et ce qu'il est venu accomplir. Nous allons subir la persécution à la main, aux mains de ceux qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, de la ligne de Caïn. Ce n'est pas Abel qui haïssait Caïn, c'était Caïn qui haïssait Abel. Et cela parce que Dieu ne considérait pas les œuvres de ses mains. Mais Abel étant un véritable enfant de Dieu, Dieu ayant révélé en lui, par l'Esprit de Christ, la voie de pouvoir s'approcher de lui à travers un sacrifice sanglant. Alors Abel était accepté et Caïn était rejeté. Et il y en a qui disent, mais est-ce que Dieu peut faire cela? Oui, il est le juge. Et c'est lui qui juge les vivants et les morts selon son pouvoir. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et Dieu voulant, nous allons reprendre ce passage la semaine prochaine.